Claude étant une personne très persévérante, m'appelle régulièrement pour continuer à m'offrir l'emploi. Et finalement, après quelques mois, mais j'ai cédé, j'ai accepté de joindre le groupe BMR, déménager ma famille, la région des Bois-Francs, à Montérégie, la région de Montréal. Et avec aucun regret aujourd'hui, je vous dirais, je me suis fait tirer l'oreille parce que j'avais les convictions de bien faire les choses à Coop des Bois-Francs puis de continuer à faire grandir l'organisation. Mais j'ai été très heureux et très content du changement qui s'est effectué vers BMR par la suite.
Mon nom est Antoine Gagné et je vous souhaite la bienvenue au 154e épisode du podcast Hypercroissance. Avant d'écouter l'épisode d'aujourd'hui, je vous invite à vous abonner sur Spotify, Apple Podcasts ou sur votre plateforme de balado préférée afin d'être notifié des nouveaux épisodes qui arrivent tous les lundis et également jeudi matin. J'en profite aussi pour vous faire une toute nouvelle annonce. Le 3 mai dernier, on a officiellement lancé notre troisième balado hebdomadaire intitulé Commerce Élite. Après Hypercroissance et Social Selling, on a décidé de lancer un nouveau podcast qui sortira à chaque mardi parlant des tendances à suivre dans le commerce électronique. Les entretiens tactiques et stratégiques seront également au rendez-vous. Donc si vous possédez un commerce en ligne et que vous désirez le transformer en commerce élite, allez jeter un coup d'œil à notre tout nouveau balado ou encore transférez le podcast à votre chef du département marketing. Bâtir une entreprise n'est clairement pas le même mandat que diriger cette dernière. On voit des fois des entrepreneurs qui excellent dans l'idéation d'une société, mais qui auront beaucoup de difficultés à gérer cette même entreprise. D'un autre côté, on a ce qu'on appelle des entrepreneurs qui n'ont pas bâti nécessairement la corporation, mais qui ont le bagage nécessaire afin de mener une entreprise afin qu'elle atteigne son hypercroissance. Et aujourd'hui sur le podcast, on reçoit un dirigeant, mais pas n'importe lequel, des dirigeants. On a avec nous le PDG de la 9e plus grosse organisation au Québec, Coopération Solio. Son président Pascal Houle est avec nous afin de nous raconter son parcours personnel, mais également pour nous parler de l'évolution importante que la coop a eue à travers les années. On parle d'ailleurs des différentes acquisitions qu'ils ont pu faire et bien entendu de leur 100e anniversaire. Sans plus attendre, ma discussion avec Pascal Houle. Pascal Houle, vous êtes le président et chef de la direction de la coopérative Solio qui regroupe les entités Olimel, BMR ainsi que Solio Agriculture. Votre organisation qui compte à ce jour plus de 16 000 employé peut se targuer d'être la 9e société la plus importante au Québec et fêtera même cette année ses 100 ans d'activité. Pascal Houle, au nom de toute l'équipe du podcast Hypercroissance, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui.
Merci beaucoup, M. Gagné, pour votre invitation aujourd'hui.
Et M. Houle, avant de parler précisément de l'évolution de votre parcours ainsi que celui de Solio, pouvez-vous nous faire un bref résumé de qu'est-ce que la coopérative Solio?
Vous l'aviez bien fait d'entrée de jeu. La coopérative Solio, c'est une entreprise qui appartient aux producteurs agricoles, principalement les producteurs agricoles du Québec. On est présent dans trois grands secteurs d'activité, soit la transformation de la viande porcine, la viande de poulet avec Olimel. Alors, très, très présent au niveau agroalimentaire. On exporte dans plus de 50 pays à travers le monde au niveau du porc. Alors, ça, c'est le volet transformation agroalimentaire avec Olimel. Alors, on met en marché le produit de nos propriétaires, les producteurs agricoles du Québec principalement, mais également dans l'Ouest canadien et de l'Ontario. Ça, c'est notre secteur agroalimentaire. Alimentaire. Il y a le secteur agricole dans lequel c'est le fondement même de la coopération, de la 100 ans. Les producteurs agricoles sont réunis pour créer la coop fédérée à ce moment-là, se doter des services, de la formation et des outils de mise en marché. Alors, il y a Solio Agriculture qui est présent dans les productions animales, les productions végétales, grains, et ce, à travers le Canada. Et dernièrement, le dernier arrivé, la dernière division en 2013, lorsque la coop fédérée a fait l'acquisition de BMR, anciennement Solio Agro Coopératif s'appelait la coop fédérée, alors a fait l'acquisition de BMR. Alors, on est présent dans le secteur détail avec BMR, principalement dans l'Est du Canada. Alors, c'est l'entreprise qui appartient aux producteurs agricoles, siège social au Québec, à Montréal. Alors, pour nous, c'est une fierté d'être une grande entreprise d'ici, mais qui appartient également aux gens d'ici.
Parce que vous en couvrez large, là, vous venez de le dire, vous êtes dans certaines catégories, vous possédez des organisations reconnues, connues partout à travers la province et même à travers le pays. Mais j'aimerais revenir, Monsieur Houle, à votre parcours personnel au départ. Donc, j'ai pu voir à travers mes recherches que depuis l'âge de 14 ans, vous œuvrez dans le commerce de détail, donc vous avez commencé à travailler assez jeune. La question que je vous poserai ici, c'est est-ce que cette envie de travailler aussi jeune venait de vos parents ou est-ce que c'était de vous personnellement qui vouliez rapidement être sur le marché du travail?
Je voulais être rapidement sur le marché du travail. Là, mes parents m'ont pas poussé de la maison pour aller travailler. C'est sûr, à 14 ans, on était encore à l'école, on était au secondaire. Puis j'avais une maison qui avait un magasin de sport très près de la maison, je dirais à quelques centaines de mètres. Alors, c'est ce qui m'a incité. Le goût du sport et le goût du travail. Alors, pour moi, c'était une passion, le sport, entre autres, le ski alpin, tennis ou autre. Alors, c'est ce qui m'a amené à travailler à 14 ans. C'est vraiment plus la passion du sport que nécessairement le goût, le besoin d'aller travailler, mais de travailler dans le sport. Les gens qui rentrent dans un magasin de sport, en tout cas à 14 ans, pour moi, c'était des gens heureux, des gens avec qui on avait les mêmes affinités. Faire du sport, c'était positif. Fait que pour moi, travailler, c'était pas du travail, c'était plus un passe-temps qu'autre chose.
Puis je pense que ce passe-temps-là, ou du moins le travail en soi, vous avez continué à le faire pendant pas mal tout votre cursus scolaire. Vous faites d'ailleurs vos études à l'Université Laval avant de rejoindre à la fin de vos études le réseau coopératif, la coop des Appalaches au départ, la coop des Bois-Francs par la suite, et on discutera un petit peu plus tard de vos postes de direction que vous avez présentement. Mais qu'est-ce qui explique, selon vous, avoir œuvré aussi rapidement depuis le début de votre carrière dans le réseau coopératif? Qu'est-ce qui vous a attiré dans cette catégorie?
C'est une excellente question. Je me fais souvent poser la question. Je dirais, sortant de l'université, comptable de formation, mes parents sont pas de l'agriculture, pas du tout. Très peu de connaissances du réseau coop, à part, je pourrais vous dire, Desjardins, la coopération qu'on connaît avec la caisse scolaire quand on est tout petit au primaire. Alors, c'est une opportunité. Ma volonté de travailler dans le détail, mon intérêt pour le détail, comme vous l'avez mentionné, j'ai toujours continué à travailler durant mes études au magasin de mon oncle au détail. Alors, sortant de l'université, une opportunité se présente d'être directeur des quincailleries dans une coopérative agricole qui était la Coop des Appalaches. Alors, ça m'intéresse, le détail. Je connais pas la coopération, je connais peu l'agriculture, mais le défi m'intéresse, m'interpelle de travailler avec les gens, travailler au détail. Alors, c'est ce qui m'a amené, je vous dirais, c'est le hasard, c'est l'opportunité de me retrouver dans une coopérative agricole près de chez moi, à moins d'une demi-heure de la maison. Alors, c'est vraiment une opportunité et un hasard qui m'a amené vers la Coop des Appalaches à ce moment-là.
Parce que votre expertise, à la base, c'est ça, c'est une expertise dans le niveau financier, là.
Oui, je suis comptable de formation, je vous dirais. Fait que c'est vraiment plus au niveau comptabilité, au niveau financier. Alors là, je me disais, premier emploi après l'université. L'entrepreneurship m'intéresse beaucoup également. Je savais que l'entreprise est en croissance. La Coop des Appalaches investissait beaucoup à ce moment-là. Fait que je me disais, pourquoi pas mettre à profit mes connaissances financières d'entrepreneurship avec mon goût du détail. Alors, 4 petites succursales à ce moment-là. Gérer une équipe d'une centaine d'employés. Fait que c'était tout un défi pour quelqu'un qui sortait de l'université. Fait que j'ai accepté le défi, je vous dirais, avec plaisir, mais aussi avec fierté. Et c'est mes débuts dans le réseau coopératif. Et là, dès le début, j'ai apprécié, je vous dirais, l'ambiance, la collaboration, le réseau, la vision également de la coopérative, mais de la coopération également.
Puis on parle beaucoup de la coopération, du réseau coopératif, mais juste pour bien situer notre audience, parce que j'imagine qu'il y a peut-être des auditeurs là, qui vont écouter le podcast, qui vont dire, est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi spécifiquement la distinction entre une coopérative puis une entreprise publique ou une entreprise privée, juste pour bien situer notre audience aujourd'hui?
Ben, juste à haut niveau, puis ce que nous autres, on dit souvent aux gens, c'est sûr qu'à une membre d'une coopérative, c'est une adhésion volontaire. On appartient à des milliers de membres qui sont aussi des utilisateurs également. C'est pas juste des actionnaires, mais c'est des propriétaires qui sont utilisateurs. Il y a un pouvoir démocratique, on dit toujours chez nous, c'est un membre, un vote. Et je voudrais, la démocratie s'opère lors d'Assemblée générale. Alors, c'est pas le nombre d'actions qui donne le nombre de votes, mais chaque membre a un vote. Et je voudrais, la grande différence avec les entreprises publiques, je dirais entre autres, c'est l'horizon de temps. Vous l'avez mentionné plus tôt dans notre rencontre, Solio a 100 ans. On a vraiment une vision long terme. Les propriétaires ont une vision long terme. On n'a pas à réagir nécessairement au trimestre. aux attentes des actionnaires, aux attentes du marché. Je dirais la grande différence, c'est la vision long terme que les propriétaires ont de bâtir des actifs, de bâtir des outils de mise en marché pour les producteurs. Je vous dirais, c'est ce sont les plus grosses différences. Peut-être d'autres éléments, c'est la, je vous dirais, là, c'est les valeurs, là, les valeurs d'équité, transparence, la communication qu'on fait tant que nos membres, avec nos employés, c'est des caractéristiques qui différencient une coopérative comme la nôtre.
Ben, j'imagine que ça doit faire toute la différence de pouvoir avoir cet horizon long terme au lieu de réagir continuellement à des résultats trimestriels qui, ultimement, peut impacter notre vision long terme, notre North Star, pardonnez-moi l'anglicisme ici, qu'on peut se mettre des fois en tant qu'entreprise. Puis maintenant, je reviens à votre parcours, Monsieur Hull, en regardant votre cahier de route, on peut voir qu'une promotion n'attend pas l'autre. Ça vous connaît, vous, les nouveaux postes, les nouveaux rôles dans des coopérations, dans des entreprises. Bon, essayez de donner un petit peu de chiffres là, à notre audience aujourd'hui. Vous avez eu seulement besoin de 4 ans pour devenir directeur général de la coop des Bois-Francs. 1 an seulement pour devenir chef de la direction chez BMR et également 8 mois seulement pour cette fois-ci devenir chef de la direction de la coop Solio. De 1, félicitations, c'est assez exceptionnel tout ça. Puis de 2, je serais curieux. Qu'est-ce qui explique, selon vous, peut-être une question difficile, mais une ascension aussi rapide que vous avez été capable d'avoir dans les différentes coopératives à travers le temps, dans les différents rôles que vous avez eu à jouer?
Ben, je vous dirais premièrement, le premier point, c'est possiblement la passion. La passion du travail, la passion de l'organisation, la passion de travailler pour les producteurs agricoles d'ici du Québec et avoir un impact sur les gens d'ici, autant les propriétaires que la population en général, parce qu'on est très présent dans les régions, on redonne beaucoup. Alors ça, c'est une motivation. Autre élément également, c'est sûr qu'il y a toujours la préparation, il y a le hasard qui fait qu'il y a différents postes se sont ouverts là à des moments propices. Puis je vous dirais la préparation, mais aussi la qualité des équipes qui m'ont entouré au fil du temps. On dit souvent, puis c'est pas un cliché, on est toujours aussi bon que la qualité des équipes qui nous entourent. Je vous dirais un fait particulier, c'est la qualité des équipes qui m'ont entouré tout au long de ma carrière ont fait que les opportunités ont pu être présentes pour moi.
Puis on va en parler un petit peu de ces équipes, de cette organisation-là. Mais peut-être une petite question à part. Vous dirigez maintenant, comme j'ai dit, la 9e société la plus grande au Québec, 16 000 employés, le groupe Solio. Vous avez parlé également d'entrepreneuriat un petit peu plus tôt dans l'entretien. Ça vous est pas venu à l'esprit à un certain point dans votre carrière, Monsieur Hull, de peut-être vous lancer littéralement à votre compte et quitter le réseau coopératif et les entreprises dans lesquelles vous aviez opéré?
Je vous dirais, est-ce que l'entrepreneurship, oui, m'intéresse beaucoup. Je vous dirais, j'ai su combler cette volonté d'entrepreneurship par la croissance qu'on a pu faire, les acquisitions. Fait que, on va appeler ça de l'entrepreneurship. Fait que j'ai su combler mon besoin parce j'en parlerai peut-être un peu plus tard, mais on a fait de nombreuses acquisitions. On a fait beaucoup de croissance tout au long de ma carrière dans le réseau Coop. Fait que ça, c'est venu combler, je vous dirais, un besoin de développement d'entrepreneurship personnel. Alors, mes différents emplois ont comblé ce grand besoin-là.
Ben, j'en doute pas. Et parlons-en un petit peu des acquisitions. Vous m'ouvrez la porte pour ça. Donc, en 2015, d'ailleurs, on peut voir que Solio, l'entreprise, ou plutôt la coopération que vous êtes dirigeant aujourd'hui, fait l'acquisition du groupe BMR. On en a parlé un petit peu plus tôt. Mais je reviens, j'aimerais bien comprendre là le volet de l'acquisition. Comment tout ça s'est déroulé? Parce que c'est un gros joueur que Solio a acquis. Comment que ça s'est fait tout ça? Comment que BMR, par la suite, s'est joint au groupe Solio? Est-ce que vous êtes capable de nous parler un petit peu des détails de cette transaction?
Oui, je peux vous en parler en détail. J'étais pas nécessairement présent chez BMR. J'étais arrivé suite à l'acquisition. Par contre, j'étais directeur général à la Coop des Bois-Francs à ce moment-là. Alors, je connais bien l'histoire. Peut-être que je reculerai un petit peu dans l'histoire pour vous parler de notre bannière Unimat, qui était notre bannière du réseau coopératif. C'était une petite bannière quincaillerie matériaux avec les marchands qui étaient les coopératives. On était rendu, je vous dirais, à la croisée des chemins, tant en termes de bannière, en termes de développement, en termes de volume. Alors, pour nous, stratégiquement, il fallait soit vendre le secteur d'activité quincaillerie avec Unimat, soit se joindre à une autre grande bannière, soit faire une acquisition. Je vous dirais, le conseil d'administration du temps, les gestionnaires du temps ont une vision de dire c'est un secteur d'activité dans lequel les coopératives sont impliquées. On est présent dans l'ensemble des régions comme les coopératives. Alors, faut bouger, faut voir plus loin. Alors, les gens ont regardé le marché, ont approché les gens de BMR et il y a eu transaction. Puis là, je vous dirais, c'est la souris qui a mangé l'éléphant parce que Unimat était de plusieurs fois plus petit que BMR et que son réseau de marchands. Alors, l'Aqua Fédérée, la force de l'Aqua Fédérée et ses autres secteurs d'activité a fait l'acquisition de BMR et on a intégré l'ensemble des marchands Unimat. Puis là, à ce moment-là, en 2013, on avait 150 marchands Unimat, 150 marchands BMR. On a jumelé l'ensemble du groupe. On a conservé la bannière BMR parce que, en termes de notoriété, BMR avait beaucoup plus de notoriété, plus de volume, plus de profondeur. Alors là, on a intégré l'ensemble des marchands BMR et l'ensemble des marchands Unimat ensemble pour aujourd'hui être le plus grand quincaillier au Québec, présent dans l'ensemble des régions du Québec. Et avec le temps, on s'est développé dans les Maritimes, en Ontario, de plus en plus.
Puis, essayez peut-être de nous donner un petit peu une visibilité sur votre rôle. Vous étiez dans la coop des Bois-Francs au moment de la transaction. Donc, à quelle vitesse, là, vous, par la suite, vous êtes rentré chez Solio et peut-être les rôles que vous avez eus entre-temps?
Ouais, c'est une bonne question. Un, peut-être pour dire, j'étais directeur général de la coop des Bois-Francs, présent dans plusieurs secteurs d'activité, secteur agricole, secteur du détail, l'énergie. Alors moi, comme directeur général qui possédait des quincailleries Unimat du réseau coop, de voir ma fédération, la coop fédérée, faire une acquisition importante, ben pour nous, c'était très motivant, challengeant de dire on va rejoindre, on va former un nouveau groupe, on va avoir une bannière qui est beaucoup plus connue parce que bien avait une très, très grande notoriété, ce qu'on n'avait pas nécessairement avec Unimat. Fait que pour moi, ça a été très, très motivant pour moi et mon équipe de joindre BMR en tant que marchand, parce qu'on était marchand Unimat. Pour la suite de votre question, qu'est-ce qui m'a amené chez BMR? Je vous dirais, encore une fois, c'est une opportunité. Le président du temps de BMR, il restait quelques années avant de prendre sa retraite. Alors, le chef de la direction de l'Aqua Fédérée, qui est avant Solio, m'appelle, puis c'est une petite anecdote, un samedi soir d'octobre, j'étais en camping avec ma famille, qui m'a dit « Pascal, comment ça va? J'aurais peut-être une opportunité à te présenter. » Il dit « On a fait l'acquisition de BMR. Le président va prendre sa retraite à très court terme. On aurait besoin de quelqu'un pour assurer la relève, alors faire quelques mois avec le président et ensuite prendre la relève. » Alors, je lui dis à ce moment-là, je dis « Merci Claude, c'est vraiment... Je suis touché et flatté, mais j'ai des défis, on fait de la croissance, les résultats sont exceptionnels. Alors... je vais passer mon tour. Merci de l'opportunité, mais je suis très bien à coop des Bois-Francs, puis on a des projets plein les bras, puis ça va bien. Alors, Claude, étant une personne très persévérante, m'appelle régulièrement pour continuer à m'offrir l'emploi. Et finalement, après quelques mois, mais j'ai cédé, j'ai accepté de joindre le groupe BMR, déménager ma famille, la région des Bois-Francs, à Montérégie, la région de Montréal. Et avec aucun regret aujourd'hui, je vous dirais, je me suis fait tirer l'oreille parce que j'avais des convictions de bien faire les choses à coop des Bois-Francs puis de continuer à faire grandir l'organisation, mais j'ai été très heureux et très content du changement qui s'est effectué vers BMR par la suite. Fait que c'est mon histoire de l'opportunité chez BMR en 2013, en 2015.
C'est ça, c'est en 2015. Donc vous prenez le poste en 2015 directement de chef de la direction ou vous êtes chef des opérations à ce moment-là?
Je suis arrivé en mars 2014, alors j'ai été chef des opérations vice-président. Ouais, et en 2015, j'ai pris le poste de président suite au départ de l'ancien président de BMR pour la retraite.
Intéressant. Puis on va parler par la suite de Solio, mais j'aimerais vous entendre. Vous êtes resté quand même plusieurs années chef de la direction de BMR. C'est quoi le diagnostic que vous faites à ce moment-là pour, j'imagine, à vous entendre, vouloir continuer à faire de la croissance? Ça a l'air d'être un petit peu inné dans le groupe. Ça fait partie de l'ADN. C'est quoi le diagnostic qu'on fait, la situation, et comment qu'on se dit qu'on peut amener le groupe BMR à un autre niveau?
Le premier diagnostic, c'est qu'on a un gros enjeu d'intégration. Après une grande acquisition comme ça, on doit intégrer deux groupes là qui, à ce moment-là, étaient compétiteurs. Alors, on prend des gens qui étaient souvent un en face de l'autre ou d'une région et d'un autre, d'un village d'un autre qui faisaient compétition entre BMR et Unimat. Alors, là, au jour 1, on veut capter les synergies. Alors, on fait certaines fermetures de centres de distribution pour améliorer l'efficacité. On enlève tranquillement les bannières Unimat qu'on avait depuis plusieurs années pour amener les bannières BMR. On crée un groupement d'achat et on joint un groupement d'achat. Ça, c'est quand même assez stratégique. On a joint un groupement d'achat qui s'appelle ILDC, qui est un groupement d'achat pan-canadien dans lequel on a entre 5 et 6 milliards d'achats. Et pourquoi joindre un groupement d'achat canadien? C'est qu'on a besoin d'avoir, je vous dirais, une contrepartie ou un contrepoids aux grands joueurs américains qui sont nos compétiteurs à ce moment-là, les Rona Lowe's, les Home Depot. Alors, étant un petit joueur québécois par rapport à ces grands joueurs-là, on joint un grand groupe, on achète ensemble et ce qui nous permet d'avoir un pouvoir d'achat. Alors ça, ça a été, je vous dirais, un autre élément très, très important. Et là est venu un peu des opportunités de croissance et diversification. Vous savez, BMR est très présent dans le marché des quincailleries matériaux. Au niveau des matériaux, principalement, c'est les entrepreneurs en construction qui sont présents dans le résidentiel ou 6 logements et moins, mais très, très peu présents dans l'industriel, la construction de condos à Montréal, à Québec. Alors, on a eu une opportunité de faire l'acquisition du groupe Lefebvre et Benoit à Laval et à Toronto pour se positionner dans un marché de niche qui est en très, très grande croissance. Alors, à ce moment-là, en 2019, on a fait l'acquisition de groupe Lefebvre et Benoit qui a amené un important volume et un créneau de marché dans lequel on était très, très, très peu présent, le groupe BMR. Et vous savez, comme coop agricole, BMR et Unimat, on vend des produits agricoles aux producteurs agricoles dans l'ensemble des régions du Québec. Et le secteur acéricole, pour nous, est un secteur important. Alors, on souhaitait développer une grande expertise, élargir nos marchés. Alors, on s'est associé avec le leader en Amérique du Nord qui s'appelle CDL, qui est une entreprise québécoise en Bellechasse. Alors, on s'est associé avec ces gens-là. On a pris un partenariat dans cette entreprise-là qui est en croissance pour unir nos forces et développer le marché acéricole en Amérique du Nord. Alors, là est arrivé le partenariat avec CDL, qui est une grande entreprise là dans l'agroalimentaire, principalement l'acériculture. Alors, c'est quand je vous disais que mes besoins d'entrepreneurship personnel sont comblés à travers mon emploi, mais ça en voilà deux exemples.
À tous les auditeurs du podcast Hypercroissance, je vous pose une question. Êtes-vous à la recherche des dernières tendances pour votre commerce en ligne? Êtes-vous à la recherche des ressources pour votre chef du département marketing afin de l'aider dans son travail? Si c'est le cas, sachez qu'on croit avoir la bonne réponse pour vous. On a la fierté aujourd'hui de vous présenter notre tout nouveau balado intitulé « Commerce Élite », un podcast qui, à chaque mardi, va présenter des entretiens marketing tactiques avec des acteurs influents du commerce électronique. Dans ces épisodes, on s'assure également de vous mettre à jour sur les nouveautés qui ont impacté l'industrie dans les dernières semaines. Donc après hypercroissance pour les entrepreneurs et social selling pour les acheteurs médias, nous voilà maintenant avec Commerce Élite, un podcast 100% orienté pour les équipes marketing des entreprises qui vendent en ligne. Allez jeter un petit coup d'œil et n'hésitez pas à transférer le podcast à votre équipe interne. De retour à l'épisode en cours.
Donc, vous arrivez en 2015, vous avez pris la direction, vous faites des acquisitions, vous faites des prises de position dans d'autres entreprises également. On arrive à la fin de votre mandat, et là, on va en parler bientôt avec le groupe Solio. Dans quel état est BMR à ce moment-là? Parce que là, ça a dû grandir, tout ça. Vous avez des secteurs de marché que vous n'étiez pas à votre arrivée. Quel a été le constat peut-être en nombre d'employés, en prise de marché à la fin de votre mandat avec BMR?
Je vous dirais principalement, on s'est positionné dans un marché dans lequel on n'était pas présent du tout, dans le marché industriel, dans les grandes villes, principalement Montréal, Québec et Toronto avec l'acquisition de Lefebvre et Benoit. On a eu également une stratégie de croissance organique avec l'ajout de nouveaux marchands. Alors, plusieurs nouveaux marchands dans les dernières années au Québec. Alors, on a amélioré notre empreinte au Québec, mais également notre stratégie, c'était de se développer en Ontario un marché de 13 milliards de potentiel où est-ce qu'on était très, très peu présent. Alors, pour nous, l'Ontario devenait un marché très fertile pour le développement. Alors, c'est ce qu'on a fait depuis ce moment-là. Et je vous dirais, il y a plusieurs marchands d'Ontario qui ont joint BMR depuis les 3, 4, 5 dernières années. Encore cette année, avec mon successeur qui a fait plusieurs gains. Fait que On a vu BMR passer de près d'un milliard à 1,5, 1,6 milliard. Alors, ça a été des excellentes années, malgré le COVID, qui a été une belle opportunité pour nous dans les deux, trois dernières années.
Bon, donc 2015 à 2021, je pense que vous êtes resté 6 ans chef de la direction chez BMR. Et là, on arrive dans le coin des années 2021. Et là, il y a une opportunité nouvelle qui se présente ici. Vous devenez chef des opérations chez Groupe Solio. Est-ce qu'il y a une anecdote croustillante ici aussi?
Ah non, pas d'anecdote croustillante à ce moment-là. Celui-là était beaucoup plus prévu ou prévisible. Vous savez, une entreprise prévoyante à 100 ans. Chef de la direction qui était ici depuis quelques années, qui a passé sa carrière au sein de Solio Groupe Coopératif à différents niveaux, préparait sa retraite. Le conseil avait une vision nécessairement de faire un remplacement avec des gens de l'interne, des gens avec la culture coop et comme j'aime l'appeler souvent, avec le sang vert. Alors, j'étais déjà dans un processus de remplacement depuis quelques années. Alors, je vous dirais, ça a été peut-être moins d'anecdotes à ce niveau-là. Alors, le poste de chef des opérations, ça a été une transition pour avoir la chance de travailler durant un an avec l'ancien chef de direction que j'ai remplacé l'an passé en septembre. Alors, ça m'a permis de côtoyer le conseil d'administration, ça m'a permis de côtoyer durant un an l'ensemble des secteurs d'activité, le chef de la direction, M. Desroches, qui était là avant moi. Alors, ça a été une très, très belle période de transition et d'adaptation pour moi.
Et là, je repose une question que j'ai posée initialement parce que là, ça devient très intéressant. Encore plus que ce l'était avec BMR, parce que là, ça devient énorme, le groupe Solio. Quelle est la réalité que vous faites face quand vous prenez la direction du groupe Solio? Parce que là, vous rentrez dans une ligue là, quand même différente. C'est 9e organisation en plus forte taille au Québec, 16 000 employés, des catégories d'entreprises différentes, vous le disiez. Il y a BMR, il y a l'IMEL, il y a Solio Agriculture. Donc, c'est des sphères de métiers qui sont quand même différentes entre les trois entités. Comment qu'on gère ça comparativement à ce qu'on était capable de faire chez BMR?
C'est une excellente question, puis je vous dirais, quand on y pense avec du recul, mais ça peut donner le vertige de penser à l'ampleur d'organisation, l'ensemble des secteurs de l'activité qui sont très diversifiés. Mais je vous dirais, la connaissance du réseau, la philosophie des membres du conseil d'administration, de plusieurs membres de l'équipe de direction, je vous dirais, mon premier mandat, ça a été d'approfondir mes connaissances dans l'ensemble des trois secteurs d'activité, de m'impliquer au niveau des opérations, de m'impliquer avec les chefs de direction en place. Enfin, je vous dirais, ça a été là, mes premiers défis. Mais ça paraît toujours pire que ce que c'est. On est déjà dans l'organisation. J'étais déjà dans le secteur agricole. C'est des secteurs que je connaissais bien. Alors, je vous dirais, la transition, c'est très, très bien fait. J'avais une bonne équipe qui m'entourait, des comités de direction très présents, avec une bonne expertise, un conseil d'administration qui est stable également. Je vous dirais, l'apprentissage est bien fait. Puis, il y a eu une très, très belle transition avec mon prédécesseur également qui m'a transmis le maximum de connaissances.
J'aimerais parler un petit peu avec vous de la COVID. Vous avez dit qu'il y a eu une opportunité qui s'est présentée de votre côté au niveau de la COVID. Pouvez-vous nous faire un petit portrait de la situation? Les entrepreneurs et entrepreneurs qui viennent sur le podcast, on a tout le temps deux histoires. La première histoire, c'est le COVID, c'est la meilleure chose qui a pu nous arriver. On a quadruplé notre croissance. L'autre, c'est on a été malheureusement handicapés et ça nous a ralenti comme pas possible. Quel a été le verdict au final avec le groupe Solio?
Ben, je vais vous parler de deux exemples qui sont aux antipodes. Je vais parler de celle que j'ai vécue de plus proche. Alors, quand la COVID a commencé, j'étais chef de direction de chez BMR. Alors, les premiers jours, premières semaines, on se fait des rencontres spéciales, des war rooms, comme on appelle. Alors, on se pose la question, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que nos magasins devront fermer? Parce que je vous rappelle qu'à ce moment-là, les magasins fermaient, tous les magasins qui n'étaient pas essentiels fermaient. Alors, nous, on allait se poser la question, si nos magasins ferment, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on avait investi dans le web. Alors, on y va à vitesse grand V, on déploie le web de plus en plus. Et finalement, nos magasins sont jugés comme magasins essentiels. Nos magasins restent ouverts. On a des rencontres plusieurs fois par semaine pour s'assurer de bien fournir, s'assurer d'avoir la bonne stratégie, d'avoir les bons produits, d'avoir le personnel suffisant, parce que là, on a des gens qui sont malades, on a des gens qui doivent porter le masque. Fait que je vous dirais, puis rappelez-vous, au début 2020, les gens refaisaient leur patio, achetaient des barbecues, rénovaient la maison, achetaient la peinture. Pour nous, ça a été des années exceptionnelles, des années qui nous ont fait peur. Je vous dirais, dans les premières semaines de la COVID, on y avait beaucoup de crainte parce qu'on connaissait pas, on savait pas comment ça allait se passer. Mais avec du recul, aujourd'hui, on a vécu des très, très belles années au niveau du détail avec la COVID. Les gens sont restés à la maison, ont été empêchés de voyager, d'aller à l'hôtel, d'aller au restaurant durant plusieurs mois. Alors, ce que les gens faisaient du cocooning et rénovaient leur maison. Alors, pour des gens comme BMR, comme nous, ça a été exceptionnel. À l'inverse, puis là, je vais vous parler du secteur chez Olimel. Alors, quand la COVID arrive, manque des employés dans des usines qui font de la transformation avec du vivant, on a besoin de main-d'œuvre. Alors, COVID arrive, les mesures de distanciation sociale. Alors, sur les lignes de découpe, sur les lignes d'abattage, au lieu d'avoir 100 personnes, on doit respecter les distanciations. Alors, on en a 50. Alors, avec toutes les procédures de mettre des plexiglas, les gens avec les masques et autres, alors la productivité, l'efficacité est considérablement réduite. En plus d'être obligé d'arrêter certaines lignes de production parce qu'il nous manque d'employés, et arrive la COVID, la main-d'œuvre, pénurie de main-d'œuvre qu'on vit depuis plusieurs mois. Alors, on a besoin de main-d'œuvre pour faire fonctionner l'ensemble de nos usines. Alors, je vous dirais, la COVID nous a touché beaucoup plus durement en ce qui a trait à nos opérations d'abattage, autant dans le porc que dans le poulet. Malgré que les gens n'ont pas arrêté de manger, même si les restaurants fermaient, les gens allaient à l'épicerie quand même, on avait besoin de produire pour les citoyens, pour la population. Alors, on a eu certaines difficultés, je vous dirais, en lien avec la pénurie de main-d'œuvre et la distanciation dans nos usines.
Fait que vous avez vécu les deux extrêmes, là, quasiment, on peut dire ça.
Oui, je vous dirais qu'on a vécu les deux extrêmes là, durant la COVID.
Et là, vous faites l'intégration du groupe Solio, c'est ça? On va dire au milieu de la COVID, c'est en 2021, mais c'était déjà prévu. Et ce que je lisais, corrigez-moi si je me trompe, il y a eu beaucoup d'acquisitions, on en a parlé plus tôt, du groupe Solio à travers les années. Là, j'ai l'impression que vous, de vous dire, vous rentrez dans une période davantage de consolidation. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus? Est-ce que c'est avec toutes les acquisitions qu'on doit faire, à un moment donné, on doit s'asseoir, respirer, s'assurer que tout fonctionne bien ensemble? C'est ça un petit peu la réalité?
Oui, exactement. On est rendu à un moment de l'organisation, puis ça, c'est dans notre plan stratégique. Je vous dirais, avant 2020, on a fait environ pour 1,4 milliard d'acquisitions. Alors, on a fait de la croissance par acquisition dans les trois secteurs d'activité. Alors, c'était prévu qu'on devait prendre une pause. On doit consolider ces activités-là. On doit les intégrer. On doit capter les synergies, intégrer les systèmes d'information, aller, je vous dirais, intégrer certaines marques de commerce. Alors, c'était prévu que les deux, trois années suivantes, cette vague d'acquisition dans les trois secteurs d'activité nous permettrait d'intégrer, mais aussi, vous savez, faire des acquisitions comme ça, c'est essoufflant pour nos ressources humaines, parce qu'au-delà de faire les acquisitions, il faut les intégrer, il y a les vérifications diligentes, il y a les changements de système, il y a les nouveaux employés, il y a la culture également, on a une culture propre à notre réseau, alors intégrer nos nouveaux employés, je vous dirais, c'était nécessaire de prendre une pause pour intégrer et consolider l'ensemble des acquisitions-là, et c'était prévu dans notre plan également. Alors, c'est ce qu'on fait, on exécute le plan actuel.
Ben, j'imagine que c'est ça. On ne peut pas toujours être à la même vitesse. À un certain point, à un moment donné, on doit, comme vous l'avez dit, bien intégrer tout ça. Et vous, votre rôle, M. Hull, dans tout ça, quel est votre rôle spécifiquement? Parce que des fois, il y a des dirigeants d'entreprise qui vont davantage être reliés au niveau du produit. Il va y avoir des dirigeants qui vont être davantage reliés au niveau financier, au niveau des acquisitions. À la fin de la journée, ça ressemble à quoi un petit peu le rôle du dirigeant du groupe Solio?
Je vous dirais, le dirigeant de chez Solio, c'est un généraliste. C'est sûr, par ma formation comptable, le volet financier, le volet acquisition, le volet développement m'intéresse et tout au long de ma carrière, j'ai touché à ces éléments-là. Je suis plutôt un opérateur. Vous l'avez vu, dès mon jeune âge, les opérations m'intéressaient. Ça s'est poursuivi étant comme directeur général de la Coop des Bois-Francs chez BMR. Fait que près des clients, près des membres aujourd'hui, près des opérations. Mais je vous dirais, faut être un peu on touche un peu à tout. Comme dirigeant, on est condamné à avoir une vision stratégique pour l'organisation. Où est-ce qu'on va l'organisation dans 5 ans, dans 10 ans? Alors, la vision stratégique est importante. Faut connaître les opérations également. Si on veut avoir une bonne vision, faut avoir également une bonne connaissance des opérations. On vous l'a mentionné, on a fait des acquisitions, on est en pause, on consolide, on va revenir par des acquisitions puis de la croissance éventuellement. Fait que le volet financier est important. Vous savez, une coopérative, ça se finance pas avec des actions, on a des partenaires financiers. Alors, la connaissance financière également est importante parce qu'on a des partenaires financiers importants également. Fait que je vous dirais d'être un bon généraliste opérateur avec une connaissance dans plusieurs secteurs puis une vision stratégique, là, c'est un peu, vous dirais, le rôle du chef de la direction chez Solux Groupe Coopératif aujourd'hui.
Puis, juste pour essayer de bien comprendre la réalité du marché actuel. Donc, vous avez parlé beaucoup de croissance par acquisition, 1,4 milliard dans l'ensemble du groupe depuis quelques années. Vous allez refaire des acquisitions. Est-ce que c'est qu'on arrive à un certain point, à un moment donné, que la seule manière d'aller chercher des parts de marché, vu que vous êtes rendu un joueur énorme, c'est cette croissance par acquisition-là? Il y a une certaine limite à la croissance organique qui peut être faite présentement?
Il y a une limite, mais je vous dirais, si je prends l'histoire, là, ou même l'histoire des 20 dernières années, ça a toujours été un mix entre la croissance organique et les acquisitions. Alors, tant au milieu agricole que dans le secteur agroalimentaire, que dans le détail, ça a toujours été un mix des deux. Effectivement, je vous rappelle qu'avec la croissance des acquisitions de 1,4 milliard, mais depuis 2 ans, il y a quand même une croissance. Puis là, je vais prendre l'exemple du détail avec BMR. Il y a une grande croissance organique qui s'effectue dans les 2 dernières années. Aucune acquisition. Je vous dirais, on est en pause consolidation, pas d'acquisition. On ménage un peu nos ressources humaines, mais il y a quand même de la croissance organique. Fait que selon la situation, selon le marché, selon les conditions qu'on connaît, et là, il peut y avoir des acquisitions ou de la croissance organique, mais je vous dirais, pour nous, c'est toujours un mix des deux et selon la stratégie, mais l'opportunité qui se présente sur le marché également.
Intéressant. Dernière question avant de passer dans un volet plus personnel, Monsieur Hull. Vous avez l'air d'être quelqu'un qui a une vision long terme, donc je serais curieux de vous entendre. Cette année, c'est les 100 ans du groupe Solio. Comment voyez-vous, pas les 100 prochaines années, mais on va commencer peut-être par les 5 ou les 10 prochaines années. Est-ce que vous êtes capable de nous donner un petit peu la carte, les prochaines étapes stratégiques du groupe?
Oui, ben je vous dirais, encore une fois, on est en consolidation pour les 2-3 prochaines années. On va intégrer nos opérations. On veut, dès 2025, 24, 25, revenir avec une phase de croissance. Assurément, notre cible pour 5 ans, c'est d'atteindre les 10 milliards de chiffre d'affaires. Ça, c'est notre cible. On souhaite également une diversification. On est très, très présent dans la protéine animale. Je dis qu'on avait des très présents dans plus de 50 pays à travers le monde pour la viande porcine. On est très présent dans le poulet, mais très peu présent dans la protéine végétale. Alors, pour nous, on souhaite une certaine diversification et tout ça en lien avec la mise en marché des produits de nos clients, nos producteurs agricoles qui sont nos propriétaires. Alors, on souhaite diversifier, regarder de nouvelles protéines, peut-être d'autres secteurs d'activité pour diversifier notre risque également, parce que le souhait, c'est d'assurer la pérennité. Vous savez, les producteurs agricoles ont investi énormément dans les 100 dernières années pour se doter d'outils de mise en marché. Alors, le but pour moi, c'est dans 10 ans, avoir une entreprise qui est de plus en plus forte, plus en plus diversifiée, mais qui est toujours prêt et à l'écoute des producteurs agricoles. Alors, je vous dirais, c'est mon souhait pour les 5 prochaines années. Si je vois par secteur d'activité, Olimel développera éventuellement une nouvelle protéine, autre que la protéine animale, pour diversifier son risque. Au niveau Solio Agriculture, on s'est beaucoup développé vers l'Ouest, possiblement consolider nos acquis au Québec, dans le reste du Canada, mais peut-être au niveau du nord-américain. Et pour ce qui est de BMR, je vous dirais, apparemment, on aura une empreinte beaucoup plus grande en Ontario et dans le reste du Canada. Alors, c'est un peu ma vision pour les 5 prochaines années.
Donc, la croissance va rester au rendez-vous, ou plutôt même l'hypercroissance quand on atteint des chiffres gigantesques comme les vôtres. On est dans une catégorie différente, donc c'est assez exceptionnel de vous entendre aujourd'hui là-dessus. Monsieur Hull, j'aimerais savoir, je pose toujours ces questions-là à mes invités, est-ce que vous lisez un petit peu des livres d'affaires? Est-ce que ça vous arrive de prendre un bouquin peut-être et d'essayer de vous faire une tête sur un sujet spécifique relié au monde des affaires?
Oui, je vous dirais, puis là, suite à votre question, bon, mon cœur balançait entre certaines lectures. Mais là, je vous dirais peut-être le dernier livre que j'ai eu, c'est CEO Excellence. Je vous dirais, c'est McKinsey qui est une des plus grandes firmes de consultants qui a écrit ce livre-là.
Puis je lis en ce moment. Là. Ah, c'est Ouais, c'est le livre que je lis en ce moment, il est juste derrière moi. Mais je veux vous entendre votre opinion là-dessus.
Ben, ce qui m'intéresse, puis je vous dirais ce qui m'a intéressé dans le livre, c'est ça, c'est les états d'esprit des meilleurs CEO à travers le monde qui obtiennent du succès. C'est quoi leur état d'esprit? Puis c'est quoi les facteurs clés? Je vous dirais, moi, ce que j'ai retenu, ben, c'est les six facteurs. Là. Un, c'est définir la direction de l'organisation, être audacieux. Ça, j'ai retenu. Aligner l'organisation, je pense que c'est très, très important. Focuser sur une chose, la culture est importante, mobiliser à travers les leaders. Vous savez, je l'ai dit, l'équipe est importante. Ce qu'on sait également dans le livre, ce que j'ai dans le livre, c'est très important. Faire de l'équipe qui nous entoure la star de l'organisation. Alors, c'est pas un one-man show, c'est un travail d'équipe. On parle aussi de l'engagement des administrateurs. Je dirais aider les administrateurs à aider l'entreprise, avoir le focus sur la vision, le focus sur le futur, garder le lien avec les actionnaires, gérer son efficacité personnelle, faire seulement ce qu'on peut, bien gérer notre temps. Alors, je vous dirais, ce livre-là m'a inspiré dans les dernières semaines, je vous dirais.
Ouais. Puis, c'est un excellent livre.
C'est un addon. Puis si je peux me permettre également un livre québécois que j'ai adoré de Nicolas Bérubé, c'est peut-être un petit hobby que j'ai, c'est La Bourse, qui dit le titre Investir en bourse sans souffrir, alors qu'il fait tomber plusieurs paradigmes. Là, on peut essayer de battre l'indice, mais peu de joueurs et de traders battent l'S&P 500. Bref, en résumé, c'est on peut travailler avec des FNB, on peut travailler avec des indices qui est intéressant, puis c'est accessible à tous. Alors, un livre très accessible que j'ai trouvé très intéressant. Alors, c'était mes deux dernières lectures que j'ai trouvées très intéressantes.
Ouais, le S&P 500, en ce moment, on essaie de pas trop le regarder, là, mais habituellement, effectivement, c'est quelque chose qu'on n'a pas trop besoin de se poser de questions. Habituellement, les taux vont à la hausse, mais bon, ça, il y a des réalités de marché. J'aimerais revenir un peu sur le livre CEO Excellence. Je sais pas si vous avez déjà lu dans le passé, monsieur, le livre Good to Great qui a été écrit. Est-ce que c'est un livre qui vous dit quelque chose?
C'est un livre qui me dit quelque chose que j'ai, mais que j'ai pas encore lu, mais j'allais dans ma bibliothèque.
Si vous avez la chance dans les prochains mois, les prochaines années, jetez un petit coup d'œil. C'est un livre qu'on pourrait dire c'est le précurseur de CEO Excellence, peut-être 20 ou 30 ans plus tôt, mais c'est très intéressant parce qu'autant qu'il y a des points qui vont d'un endroit à l'autre, il y a des très, très grosses distinctions et c'est un peu la Bible, là, le Good to Great. Tous les invités qui venaient sur le podcast parlaient de ce livre-là comme dans la même vision qu'ils en font de CEO Excellence. Et là, il y a des petits changements qui se font dans ce livre-là. Donc, peut-être vous y jetterez un coup d'œil. Ça va vous ouvrir l'esprit sur certains autres points. Autre question que j'aurais pour vous. Podcast, est-ce que vous en écoutez un peu?
Très peu. J'ai débuté avec votre podcast. Je dois être très honnête que je connaissais pas. Mais j'ai commencé avec votre podcast suite à votre demande de rencontre. Alors, j'ai écouté votre entrevue avec François Roberge de la Vienne Rose, Madame Dagenet de la SAQ que j'ai rencontrée à quelques reprises. On a déjà été sur un panel ensemble. Geneviève Everel, je suis un amateur de ses livres. J'ai acheté plusieurs de ses livres. Fait que j'ai écouté plusieurs de vos podcasts. Honnêtement, c'est les seuls que j'ai écoutés. je ne suis pas un amateur de podcast autre que le vôtre que j'ai écouté dans les derniers mois, dernières semaines.
Bon, ben je vais prendre ça comme un compliment comme ça dans ce cas-là. Puis, dernière question, routine. À quoi ressemble la routine du dirigeant de la 9e société la plus grande au Québec, matin, midi, soir, avant, pendant le travail? À quoi que ça ressemble tout ça?
Ah, je vous dirais, j'aime arriver tôt au bureau. Vous m'avez posé la question tantôt, est-ce que je suis en télétravail, est-ce que je suis au bureau? J'aime être au bureau tôt. Tôt parce que je suis capable de faire mes suivis, préparer ma journée, retourner mes courriels. C'est tranquille au bureau. Fait que pour moi, ça, c'est une routine que j'apprécie, qui me permet d'être plus performant. Pourquoi au bureau? Parce que j'aime sentir la business, j'aime sentir les gens, même s'il y a des fois peu de gens à l'occasion avec la COVID et que télétravail, mais les gens qui sont ici, pour moi, c'est inspirant, ça me permet de sentir davantage la business, ça c'est personnel à moi. Sinon, pour ce qui est du midi, Lunch rapide au bureau, quand c'est possible, gym pas trop loin du bureau. Alors, un petit 45 minutes, une heure au gym, ça permet de faire le plein d'énergie, puis ça donne l'énergie, ça n'enlève pas de l'énergie.
Ben oui.
Et pour le retour, j'essaie de gérer le trafic. Alors, soit un peu avant le trafic, soit beaucoup plus tard avant le trafic pour retourner à la maison et m'occuper de la famille également.
Fantastique. Monsieur Hull, ça a été excessivement fascinant m'entretenir avec vous aujourd'hui. Une histoire sensationnelle, celle du groupe Solio, mais également la vôtre. Vous avez gravi les échelons comme peu d'entrepreneurs qu'on a été capable de rencontrer à travers les années. Donc, c'est tout à votre honneur. Si les gens veulent en apprendre un petit peu plus sur le groupe Solio pour des postes ouverts, des opportunités, c'est où l'endroit le plus facile pour vous rejoindre?
Plus facile sur notre site web, solio.coop. Alors, toute l'information, et vous savez, effectivement, on est à la recherche de beaucoup de main-d'œuvre. Plus de 3000 postes sont vacants actuellement. Alors, on a besoin. Alors, tous les futurs employés sont les bienvenus chez nous.
Merveilleux, on mettra un lien dans les notes de l'épisode. Pascal Hull, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance. Merci encore d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si l'épisode vous a plu, ce serait très apprécié si vous pouviez partager le podcast sur les médias sociaux afin de le faire connaître à un maximum de gens d'affaires possible. Également, je vous invite à m'ajouter sur LinkedIn. Comme je vous le dis à chaque semaine, j'adore discuter avec vous. Plus souvent qu'autrement, vous me donnez de super idées d'invités pour le podcast. Sur ce, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance.